Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, je vous amène en Camargue, précisément à Arles, pour découvrir cette ville en pleine mutation, en écoutant certains de ses habitants, et puis vous l'entendrez aussi, en pleine feria. Oui, bonjour à tous, c'est bien Cap Cap est sorti du studio, Cap Cap est venu à Arles, alors nous sommes sur le boulevard d'Hélice, on est sur la terrasse de la maison de la presse, et on remercie nos hôtes Pierre-Alexandre de la Brière et Patrick son père qui tiennent cette belle maison, on passe beaucoup de monde. Le marché est devant nous, donc vous entendrez certainement un certain bruit de fond, mais ça vous permettra de constater que effectivement nous ne sommes plus dans le studio. Alors nous allons parler d'Arles, et pour parler d'Arles, eh bien j'ai deux invités, Eric Bézati qui est un journaliste et le directeur de la publication de l'Arlésienne, qui est, il va nous parler de son journal, alors c'est pas si journal, revue, enfin en tout cas excellente et que je ne saurais trop recommander si vous voulez savoir ce qu'est véritablement Arles, sorti des guides un peu conformistes. Et puis Marie Garcia qui venait pour faire une signature et que j'ai embauchée pour cette table, qui venait signer son dernier livre, c'était écrit quelque part, aux éditions Nombre 7. Voilà, merci à tous les deux d'être là. Eric Bézati, alors l'Arlésienne, c'est vous qui l'avez fondée ou c'était ça vous...
Alors l'Arlésienne, bonjour à tous. L'Arlésienne, c'est une longue histoire qui commence au lycée Pasquet quand on avait 16-17 ans.
C'était il n'y a pas longtemps quand même, hein, parce que vous êtes un jeune journaliste.
Voilà, ça. Aujourd'hui, on a 32 ans, enfin j'ai 32 ans, et l'histoire commence au lycée, au journal du lycée, avec un groupe de copains et de copines qui s'inscrivent au journal qui s'appelle Le Lapsus. Et une fois qu'on a passé le lycée et qu'on a toujours envie de faire des journaux, on a créé une association qui s'appelait Le Gai Savoir. Et on va dire dans le groupe de 10 personnes qu'il y avait au lycée Pasquet, il y en a deux qui sont devenus journalistes professionnels. Et donc on a toujours eu envie de créer, on a créé une association pour continuer à faire du journalisme à Arles parce que ça nous intéressait beaucoup de faire notre journal papier à Arles. Ensuite, après une période jusqu'en 2015 où on a animé le journal Le Gai Savoir, on a arrêté parce que c'était l'énergie bénévole de la poursuite du lycée. J'ai envie de dire, l'Arlésienne c'est la version professionnelle. Et Le Gai Savoir, c'était le groupe de rock du lycée.
Oui, alors ça, quand on vous écoute, on a l'impression que c'est une bande de copains qui ont fait quatre pages, une feuille. Non, c'est pas ça, l'Arlésienne, c'est quand même extrêmement professionnel. C'est un beau journal, extrêmement bien imprimé, extrêmement agréable à lire.
Effectivement, le rendu est très, 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 très pro, parce que tout simplement, on est des pros, on a des pros dans notre équipe. Mais il y a un peu l'énergie et l'irrévérence d'un groupe de potes infaillibles où il y a l'amour entre les gens qui soude un peu le journal. Et parce qu'il y a beaucoup de bénévolat, moi je suis permanent au journal, il y a des pigistes, et il y a beaucoup de bénévolat qui font en sorte que le journal puisse sortir, quoi, qu'il y ait un journal sans publicité et sans subvention. Donc c'est aussi grâce à cette espèce d'esprit famille, ce côté un peu soudé de l'équipe qui rend le journal possible, quoi.
Et la ligne éditoriale?
Alors, on a l'habitude de dire qu'on laisse le moins de place au silence sur le territoire d'Arles. Dès qu'il y a un sujet un peu tabou, dès qu'il y a un sujet où il y a du brouillard par-dessus, nous, c'est notre rôle. On va aller dessus, on fonce.
Ça, vous y allez bien, parce que ce qui est quand même agréable, c'est que c'est un vrai travail de journaliste, comme on pourrait le concevoir. Il n'y a pas de concession, on dit les choses, vous posez parfois des questions un peu dérangeantes.
On a le luxe du temps, c'est-à-dire qu'on fait un trimestriel, donc les sujets qu'on choisit, on a le temps de les travailler pendant un mois et demi, où on va rencontrer des gens, et c'est comme ça quand on obtient les informations. Moi je suis très admiratif devant le travail de mes collègues qui écrivent tous les jours dans la Provence, l'édition Arles est très complète. Et je me dis à chaque fois, waouh, déjà moi j'en serais incapable. Et c'est un. Et voilà, ils documentent tous les jours. Et nous, parce qu'il existe la Provence aussi, parce que souvent on s'appuie aussi sur des infos qui nous mettent la puce à l'oreille dans la Provence. Et ils font aussi des enquêtes, mais bon, ils sortent tous les jours. Et nous, on a le luxe du temps. Et ça, c'est. Donc, du coup, on est en complémentarité.
Donc, ça permet de faire des articles de fond, ça permet de.
De toute façon, pour une enquête, il faut du temps. Voilà. Il faut du temps.
Ah, ben, c'est un peu le principe d'Esprit Occitanie pour lequel nous faisons cette émission. On fait des formats longs et on prend beaucoup de temps et de recul parce que sinon, le reste, l'éphémère. Ne permet pas effectivement d'être exhaustif, on ne l'est jamais vraiment, mais on essaie. C'est un métier compliqué aujourd'hui ou
bon, après, moi je me régale.
La banane que vous avez quand vous en parlez, on comprend bien que c'est pas un pinceau.
Non, après, classique, hein, faut pas compter ses heures. Après, moi j'ai l'impression que c'est un métier passion où en fait, j'ai pas l'impression de travailler quand je travaille. Hein.
Oui, Marie Garcia, vous avez l'impression de travailler en écrivant ?
Non.
Non.
Non, non. Je me fais plaisir.
Donc nous sommes trop autour de cette table, heureux, et on se fait plaisir. Alors, cette ville d'Arles dans laquelle vous vivez, Marie, Eric aussi, Bézati, sur laquelle vous écrivez, que vous connaissez intimement, comment vous la décririez aujourd'hui ?
Waouh ! Alors, c'est quand même très compliqué à sortir une définition d'Arles, le classique, c'est une ville en pleine explosion, où il y a beaucoup de...
Parler d'explosion aujourd'hui, je ne sais pas si le mot est bon, nous sommes le 11 septembre.
Ah merde.
Oui, c'est vrai.
Pardon. Un boom, non, je ne sais pas, en tout cas, il y a un chiffre qui est sorti dans... C'est Le Monde qui a sorti ce chiffre-là, plus 40% du prix de l'immobilier en 3 ans. Voilà,
donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, qui viennent un peu, je ne vais pas dire renouveler, mais ce n'est pas le grand remplacement. Donc, c'est le grand remplacement.
Alors là, allons-y sans nuance sur la métaphore. Voilà, Arles est en train, toutes les maisons qui se vendent sont rachetées par des gens qui ont plus de moyens que ceux qui étaient avant. Et de façon assez puissante, on a une arrivée de Parisiens, de Lyonnais, de gens de l'extérieur.
Alors c'est des gens qui viennent travailler ou qui sont des retraités dorés ?
Alors moi j'ai identifié le fléau. Les retraités dorés, c'est vraiment ça va, parce qu'ils viennent vivre finalement, on va pas interdire à des gens.
Ils viennent irriguer économiquement la région.
Ouais, bon, ça c'est encore discutable. Mais voilà, il y a des gens qui arrivent pour la ville à taille humaine, le climat, etc. Ça déjà parfois ça rajoute quelques frictions parce que les gens qui sont venus à la retraite, c'est pas des gens forcément qui aiment par exemple, on a des problèmes dans certaines rues où les retraités sont installés, du coup il faut plus faire de bruit après 19h ou quoi. Et des gens qui sur Facebook, sur le groupe Tédarlecy, regrettent qu'il y a des jeunes qui jouent au ballon en bas de leur rue quoi, alors que moi j'appelle ça de la vie. Et donc bon voilà, il y a un peu ce choc des cultures, mais vraiment le virus de cette ville en ce moment, c'est les maisons qui sont rachetées pour maisons secondaires et qui sont mis le reste de l'année en Airbnb. Voilà, ça tue une ville.
Alors ça, vous l'appelez le fléau. Vous avez fait un très bel article dans l'Arlésienne, le dernier numéro de l'Arlésienne.
J'appelle ça les spéculateurs de la désertification.
Et voilà. Là, les primo, alors c'est ce qui se passe à Barcelone, à Venise, à Bonn, à Paris aussi. C'est fréquent, mais c'est en train effectivement d'un peu de stériliser la ville.
Exactement. On a des rues entières qui sont fermées tout l'hiver. Il y a des rues entières, notamment ça marche dans certaines rues du quartier de la Roquette. Et là, c'est en train d'empiéter sur le quartier Voltaire, où il y a de l'habitat qui est un peu vétuste. Et du coup, il y a des investisseurs qui s'en emparent pour faire du Airbnb. Alors attention, je ne suis pas non plus xénophobe, les gens peuvent venir s'installer à Arles, c'est pas la question, c'est plutôt si on achète un bien à Arles et qu'on le met en Airbnb, on est coupable, et ça c'est pour ça que je martèle, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, il faut en arriver, vu que les politiques ne s'en emparent pas de la question, il faut en arriver à la responsabilité collective, ou au moins le savoir et le dire sur l'espace public, quand on rachète une maison à Arles pour en faire du Airbnb, on participe à la désertification et à l'aseptisation du centre-ville.
Marie Garcia, vous avez constaté ce phénomène aussi ?
Oui, mais je trouve que certaines Russes sont embellies quand même.
Ah, c'est toujours plus beau quand il y a du fric. Hein.
donc le quartier de la Roquette, place Voltaire, enfin le Voltaire aussi, oui.
C'est quand même embêtant pour moi de se dire qu'il faut qu'il arrive de la population nouvelle pour embellir la ville.
Oui.
Comme si en fait ceux qui étaient là avant n'avaient pas le droit à la beauté.
Oui, c'était une ville, je dis c'était, mais peut-être que le terme est l'imparfait est impropre, c'est quand même une ville qui vivait beaucoup, beaucoup plus carle, moins froide, plus avec des traditions, avec une culture. Est-ce que c'est en train de se perdre?
Non, quand même. Là, le problème, c'est qu'on n'arrive plus à se loger. C'est pas le fait que la ville perde son identité. On voit encore, c'est peut-être le début du processus, mais pour l'instant, il y a quand même. On est à Arles, on sait qu'on est à Arles. Et
c'est une ville où il y a beaucoup de jeunes. Quelle est la pyramide des âges, vous savez, sur Arles?
Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que la majeure partie de la jeunesse se retrouve est issue des quartiers du Trémon, de Barriol.
Des cités.
Voilà. Ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve en centre-ville.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de chômage jusqu'à peut-être une certaine pauvreté ou pas?
Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais oui, Arles est au-dessus de. Il y a un seuil de pauvreté très haut. Il y a très peu. Je crois qu'il y a qu'une personne sur deux qui paye des impôts. Non, c'est une ville très pauvre, Arles. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi très. Très, très fou ce qui est en train de se passer avec.
Je vais vous donner les chiffres de l'INSEE.
Je
les sors de votre revue. Hein. Je ne suis pas allé chercher très loin, mais. Taux de chômage 16,1%, taux de pauvreté 22,7% selon l'INSEE.
Voilà.
C'est vous qui l'avez écrit.
C'est
de bonnes sources.
C'est vrai que le creusement. À Arles, on voit tout un secteur qui se développe autour de l'art contemporain avec des milliardaires qui font leurs œuvres, des fondations qui s'installent, des parigots qui débarquent, qui retapent les maisons. Et en même temps, une très grande pauvreté. Juste en périphérie de la ville. Et donc du coup.
Ça veut dire que le ruissellement, cher à un certain président, ne fonctionne pas. On sait que ça ne fonctionne pas, hein, de toute façon.
Un petit peu quand même. Il y a May Hoffman, quand on parle de la milliardaire, c'est May Hoffman qui a construit donc la tour Luma de 56 mètres de haut dans des anciens ateliers de SNCF, un truc d'inox.
On va y venir.
Mais la seule façon qu'elle a de ruisseler, c'est de créer des emplois donc de médiateurs culturels, de cuisine et d'hôtel, quoi.
Pierre-Alexandre de la Brière, là, qui nous a rejoint, qui est notre hôte aujourd'hui.
Bonjour.
Comme je le disais en démarrant cette émission, qui nous reçoit sur sa terrasse. Hein, vous entendez un peu les bruits de fond du marché. Vous constatez aussi ce que nous dit Eric Bézati, est-ce que votre clientèle a changé ou c'est toujours constant?
La clientèle change beaucoup. En tout cas, pour nous, de notre impression, elle change beaucoup. Nous avons moins de clients, mais la moyenne panier est plus élevée.
Donc vous êtes heureux?
Moi, je suis heureux. Après, on constate aussi que malheureusement, il y a beaucoup de clients qui n'ont plus les moyens de se payer la presse. Ça, c'est un petit peu plus gênant. Et je vais rebondir sur ce que disait Eric, par exemple, par rapport au centre-ville, la question que vous posiez avant. Nous, en tant que commerçants, ce qui est un petit peu dérangeant, c'est de voir que 9 mois de l'année, tout est fermé. Parce qu'il y a beaucoup de galeries à Arles, alors c'est très bien, hein, c'est très très bien. Mais on ne peut pas vivre uniquement 3 mois de l'année. Ce n'est pas possible. On ne peut pas envoyer un message comme ça, ne serait-ce qu'aux Arlésiens. Et après, aux touristes qui souhaiteraient venir à Arles et qui viennent en hiver et qui voient que des rues complètes sont fermées parce que ce sont des galeries d'art, c'est un petit peu gênant pour ma part. De voir que le week-end, je suis le seul à être ouvert sur le boulevard avec les bars et après dans le centre-ville.
Ce sont les commerces essentiels, c'est ça?
Il n'y a pas de commerce essentiel, personne n'est essentiel ou pas essentiel. Ça, c'est une notion que l'État a bien voulu nous faire entendre, mais qui n'est absolument pas fondée actuellement. Je pense que Arles a vraiment beaucoup de potentiel. Et que la municipalité doit se pencher sur le potentiel et pas uniquement du côté culturel.
Alors justement, vous avez prononcé le mot, ben, vous me faites la transition, merci. La municipalité, vous en avez une qui est sinon neuve, du moins nouvelle. Vous avez un nouveau maire qui par ailleurs s'est fait un nom, Patrick de Carolis, que moi j'ai connu comme élu dans le Lot quand j'étais aussi élu avec lui, qui est venu s'investir à Arles, qui s'est fait élire. Comment trouvez-vous cette nouvelle équipe municipale et votre maire? Est-ce que les Arlésiens que vous êtes peuvent très librement dire quelle est leur opinion à ce sujet?
Bon, on s'amuse pas mal avec, avec la nouvelle municipalité. Hein. Bah, c'est rigolo, enfin, c'est un nouvel élu. Nous, on n'a pas changé de traitement entre l'ancienne et la nouvelle municipalité. Nous, on est forcément... En tant que presse, on revendique notre rôle de contre-pouvoir et de...
D'aiguillonneur un peu, on va dire.
Et puis aussi de toujours, entre guillemets, chercher qu'il y ait de plus en plus de transparence dans la vie publique, dans les choses communes. Et donc du coup, notre identité, c'est d'être poil à gratter avec les pouvoirs. Après, là, ça fait un an maintenant... On a un peu frotté, c'est quand même drôle. On s'est fait envoyer la police municipale devant la maison de la presse et Pierre nous a servi de garde du corps à ce moment-là. Puis après, ça s'est réglé parce qu'on a écrit un courrier en rappelant la loi de la liberté d'expression de 1881.
Voilà, ça veut dire que Patrick de Carolis, pour être un homme finalement des médias, parce que c'était toute sa carrière,
il
n'est pas très confraternel.
Non, alors il m'avait dit, et ça pendant la campagne, donc je vendais mon journal dans la rue, comme on a le droit de le faire, et il m'avait fait un truc qui honore sa stature. Il m'avait dit, mais vous l'avez eu votre carte de presse dans une pochette surprise. Et donc c'est un peu, pour moi c'est un peu un boomer avec un humour très, très vieux jeu et une stature qui veut toujours se placer au-dessus des autres, au-dessus de la mêlée, avec une espèce de stature gaulienne. Et pour moi, c'est une caricature. Enfin, donc du coup, c'est très drôle d'aller dans un genre qu'ils n'acceptent pas. Et voilà, on n'est pas invité, on est invité à aucune conférence de presse de la mairie. On a des réponses très rares de certains élus, parce que les élus, entre guillemets, sont moins bêtes que la communication qui veut faire en sorte de ne pas nous parler. Donc certains élus nous parlent parce qu'ils se rendent compte qu'il faut nourrir l'Arlésienne parce que nos analyses sont importantes. Donc là, je pense que ça va se calmer un peu avec le temps, mais on a eu une première année assez drôle, quoi, assez drôle.
On va pas demander aux commerçants de nous parler de son maire, hein. On va lui laisser un peu, à moins que vous vouliez dire Patrick Alexandre Mot, mais...
Alors, moi, concernant la nouvelle municipalité, en tant que commerçant, donc moi je revendique le fait de ne pas émettre d'idées politiques. Voilà. Ça a toujours été mon credo, Eric le sait. Je vais parler en tant que Patrick de Carolis, le maire et l'homme qu'il est. Eh bien, le problème, c'est que depuis qu'il a été élu, je crois qu'il a oublié qui étaient les commerçants. Et ça, c'est dommage. Je ne suis pas le seul à le déplorer, malheureusement. Mais il a ses priorités qui sont respectables. Cependant, il ne faut pas qu'il oublie une partie de la population, accessoirement son électorat aussi. Nous sommes des gros contributeurs de la ville et nous ne souhaitons pas être mis non plus au rebut pour quelconque motif que ce soit. C'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que quand l'équipe est arrivée, ils sont arrivés un peu comme des conquistadors.
Et ça, c'est... Quand vous dites qu'ils sont arrivés, ça veut dire qu'ils n'étaient pas là, donc ils viennent d'ailleurs.
Moi, en tout cas, je ne connais personne spécifiquement de la nouvelle équipe. Après, moi, je suis arlésien depuis 12 ans, donc je ne connais pas non plus tout le monde. Mais en tout cas, Eric, je pars sous ton contrôle.
C'est-à-dire que c'est du parachutage pur et simple.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a une partie de parachutage quand même.
Alors, Eric Bezzati.
Alors on peut dire que déjà Patrick de Carolis a acheté une maison à Arles un an avant l'élection, donc il vivait pas à Arles. Mais il a quand même
recruté... Il a des racines ici ?
Oui, sa mère est née à Arles, il est parti d'Arles quand il était jeune, pour Montpellier, etc. Puis il a fait sa carrière et puis il revient à la retraite. Mais le... Non, c'est une équipe d'Arlésiens quand même. Il est allé chercher sur les... notamment dans la droite locale, il y a aussi d'anciens responsables du Front National dans son équipe. voilà, il est allé chercher quand même, c'est des réseaux de droite qui sont arrivés au pouvoir.
Il y a eu un changement de couleur politique, le maire ancien était
communiste. Enfin, communiste, il était gestionnaire.
Communiste ou gestionnaire, ou gestionnaire communiste?
Alors bon, au début, il a eu sa carte, hein, mais bon, à la fin, il ne revendiquait pas en tout cas sa couleur politique.
Ça fait quand même un changement entre communiste, peut-être un peu rose, et puis un homme de droite aujourd'hui qui prend des gens du FN dans son équipe.
Après,
c'est
par
un
exemple,
grand écart.
L'ancien maire n'était pas du tout caméra de vidéosurveillance, le nouveau ne jure que par ça. Sécurité. Alors là, on entend sécurité, tradition, voilà ce qu'on entend à peu près, ce qui ressort de. Et culture.
Et rénovation des fontaines.
voilà, on a une politique de droite presque caricaturale. Quoi. On met des caméras, on baisse l'argent pour les subventions, on met de la police dans la rue et on fait des grands programmes d'investissement qui vont arriver là. On construit de nouveaux commissariats, enfin, on est dans de la droite. Classique, entre guillemets, ben, je ne vais pas dire bête et méchante parce que ça correspond à un électorat et à certaines volontés de citoyens. Et avant, on avait un maire qui serrait la main à tout le monde, qui voyait, je crois qu'il y avait une statistique énorme, je sais plus combien il voyait de milliers de personnes par an. Là, c'est un maire qui ne reçoit pas, qui laisse faire ses adjoints, qui sert au. Dans la rue avant.
Ces adjoints qui court-circuitent les services de la mairie.
C'est-à-dire
par exemple, moi, avec le service protocole, ce qui se passe, c'est que on a un chef de cabinet qui prend des décisions alors que, moi, il m'a été explicitement dit après par les services concernés qu'il n'avait qu'un pouvoir consultatif et pas décisionnaire. Le chef de cabinet de monsieur de Carabas. Donc ça a été un problème.
Il y a un petit sentiment qu'on arrive, on va faire mieux que les autres parce qu'on est meilleur que les autres, alors qu'il manque un peu d'humilité, je crois.
Je manque surtout qu'il manque de contact. Tu disais à juste titre, monsieur Schiavetti était ce qu'il était sur les politiquement, mais en tout cas, c'était un homme qui était toujours au contact des gens, quoi qu'il arrive.
Il avait une très bonne mémoire. Hein.
Ouais, Marie Garcia, pardon, on vous a pas entendu encore.
Je laisse parler, j'écoute, et je partage.
Vous partagez, donc vous êtes d'accord avec Pierre-Alexandre, Éric Bézati.
C'est vrai qu'il était très présent au départ, et puis là maintenant, on ne le voit plus.
Mais il vit à Arles ou il...
Oui,
quand même.
Oui.
L'ancien hôtel particulier de Camoin, qui était le maire de droite, fin des années 80, début 90. Il a racheté la maison de Camoin, c'est quand même...
La tradition est respectée, hein, c'est ça. Alors, il a des projets, il y a des grands projets, des réalisations qui vont se faire ou pas, qui tranchent avec ce qui se faisait autrefois?
Donc oui, le nouveau commissariat de police municipale. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il y a une politique de grands événements. Par exemple, on va recevoir la finale de beach volley dans les arènes. Il va y avoir le lancement d'un label Arles Créative. Donc en fait, moi je disais qu'il y a beaucoup d'affichage. On est dans les grands événements, dans ce qui est clinquant. Ah, il y a eu surtout quand même le théâtre municipal, ils sont arrivés et la critique de la droite sur le théâtre municipal, c'était de dire ça parle pas aux Arlésiens, c'est trop élitiste. Et donc Patrick Carlis est arrivé avec son équipe en disant on va rendre le théâtre aux Arlésiens. Et donc ils ont viré l'ancienne équipe, ils ont fait un appel d'offres pour avoir des nouveaux gestionnaires. Ils n'ont pas trouvé chaussure à leurs pieds parce qu'il y avait... trop d'exigences, donc ils ont baissé quand même 200 000 ou 300 000. Alors, sur un budget de 600 000 euros pour le théâtre municipal en subvention municipale, ils ont baissé de 200 000, quoi, d'un tiers. Et après, ils ont demandé aux gens de faire plus, de faire mieux avec moins. Et donc, du coup, il n'y a eu aucune personne qui a remporté l'appel d'offres. Et là, du coup, ils ont pris encore dans une politique un peu de tout ce qui brille. Ils ont pris Édouard Baird en tant qu'artiste associé, qui a eu une maison à Arles pendant plusieurs années. Ils ont pris Édouard Baird en tant qu'artiste associé pour établir la programmation. Résultat, ils devaient présenter la programmation du théâtre le 20 juillet. Ça va être début janvier. Bah oui, parce qu'effectivement, notre ami Edouard Baird a autre chose à foutre que présenter. Enfin, il n'a pas le temps, quoi. C'est un métier à temps plein de programmer un théâtre et d'administrer un théâtre. Et donc, du coup, c'est assez drôle de voir que, bon, même avec les grands noms, ben, en fait, il y a des métiers qu'on ne peut pas court-circuiter. Et donc, ça, c'est un peu un échec qui est dommage pour Arles, dommage pour le théâtre, mais qui représente un peu la façon de faire de la nouvelle équipe.
Je vous propose de faire une petite pause musicale. Hein. C'est vous qui l'avez choisi, Eric Bézati. Alors ça s'appelle Présentez-la.
Alors c'est une chanson qui est née d'un groupe Facebook et qui voulait faire un clip pour parler de la gentrification à Arles. Et donc c'est un collectif autour d'un artiste qui fait de la néo-trad, enfin voilà, qui revisite les instruments et la tradition provençale. Qui a fait un petit collectif. La chanson s'appelle Gentrifica, ça veut dire gentrification en provençal occitan. Gentrifica, donc de Henri Maquet.
Allez, nous l'écoutons.
Airbnb, 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 Airbnb. A chi sono i turisti che pagano i mai ricci che comprano sti sustau per fare mai de sau e in tutta la villa di un uomo non tranquillo dei rasla disparisce di bravi salaten sale belle tutti buttavo un musetto per che mi sta e da dietro un bello vitrino entra la torre la tubina e parendo ste canavas che spasa che un po' consulas di carriere non fa più pubblico e di razzone economico e cagna a un casino che se luga di su un po' studio addio un tanto amato villo tante in due per sangue per mille gentrifica 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 gentrifica. A chi sono le galerie in plazo di bucciarie e mai del resto di vin un po' fare l'ufin camu mai miei la bocca che lu bugnei pastaga e lu son ben commerciau che lu capu vensau sarà belle un tutti buttau a un musetto per che mi sta e tagliati un bello vitrino entra la tavola e la tubina e parendo ste canavas che spada che un po' con su l'as li caghi a sarampa più pubblico per i diras un economico e po' da cagna a un casino che se luga di su un po' che studio addio un tanto amato villo tan vendu per sangue per mille noti poi sarà te Salem, papus aquí, nous manca la gente, pérez tau país, nausi, pauvis a la terre, Salem, papus aquí, nous manca la gente, pérez tau país, nausi, pauvis a la terre, Salem.
C'était Henri Maquet qui chantait Gentrifica, le choix d'un de nos invités, Eric Bézati, le directeur de la publication de l'Arlésienne. Nous sommes toujours avec Pierre-Alexandre Delabrière qui nous reçoit dans la maison de la presse sur le boulevard des Lys. On a le marché devant nous, les gens qui passent autour de nous, vous l'entendez. Puis nous avons également Marie Garcia qui est un auteur, alors je ne sais pas, il faut dire une autrice, vous préférez comment, Marie ?
Un auteur,
voilà, qui, aux éditions Nombre 7, vient de sortir, c'était écrit quelque part. Venons un peu aux institutions d'Arles, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses. Il y a d'abord les rencontres photographiques, l'école photographique, l'école de la photographie, on va revenir là-dessus. Il y a Actes Sud, il y a Luma et Marie... Hoffmann, on va en parler longuement. Il y a le musée départemental Art Antique, la fondation Van Gogh, et puis il y en a bien d'autres d'ailleurs qu'on peut retrouver dans l'Arlésienne.
puisque vous avez fait une petite notice sur les plus remarquables. Alors, cette abondance de... C'est quand même rare dans une ville qui n'est pas immense. Combien il y a d'habitants ici, Arles?
55 000.
55 000. Bon, pour 55 000 habitants, c'est une ville très, très culturelle, apparemment.
Effectivement, il y a eu de tout temps, il y a eu quand même, avec son patrimoine romain et antique, Arles a toujours attiré pour ses vieilles pierres. Une des premières institutions qui a fait une renommée internationale à Arles, c'est les rencontres de la photo, notamment dans les années 2000 où ça se développe beaucoup. Et puis Maya Hoffman qui décide de faire sa fondation Luma. Et tous ceux qui viennent un peu se greffer à ce dynamisme, là il a fallu faire un abécédaire des fondations à Arles parce que moi là je pense que si je vous les cite de tête j'en oublierai. Donc il y a Liu Fan, un sculpteur coréen, Fragonard, donc ceux qui font des parfums à Nice qui se sont venus faire des choses. La fondation Seven, des photoreporters américains qui vont avoir un lieu.
Il y a une émission sur France Culture il y a quelques mois là-dessus où pendant une heure le journaliste allait d'artiste en galerie, je ne sais pas si vous l'avez entendu, on peut retrouver le podcast. Il y a quelque chose que je n'ai pas cité, ce sont les arènes. Nous sommes en pleine période de corrida, c'est la feria du riz. Je ne sais pas si la jauge fera qu'il y aura un public peut-être un peu plus réduit, mais c'est important la corrida ici à Arles. On est dans un pays de bouvines quand même.
Voilà, la bouvine. Après, moi, ce que je connais un peu plus, c'est la course. Ce que je connais un peu plus, c'est la course camargaise, qui donc c'est des courses où on enlève les attributs du taureau qui sont sur ses cornes. Et voilà, je connais plus parce que c'est la tauromachie qu'on voit un peu tous les jours dans toutes les fêtes de village. Et puis c'est un truc. Enfin voilà, c'est joyeux la course camargaise, moi j'aime beaucoup. Effectivement, il y a des élevages autour d'Arles qui sont surtout de course camargaise. Il y a quelques élevages de taureaux espagnols, mais on va dire que c'est plutôt la course camargaise qui fait vivre la culture tauromachique au quotidien entre mars et octobre, quoi.
Alors parlons de quelque chose qui fait couler aujourd'hui beaucoup d'encre parce que c'est très visible. Je suis allé visiter un peu les abords hier et j'ai regardé l'architecture. C'est la tour Luma de Maya Hoffman. Alors Maya Hoffman est une, je crois, la 412e fortune mondiale, si j'ai bien lu ce que vous avez écrit. Oui. Je cite toujours mes sources, elles sont excellentes. Laboratoire Hoffman, dont elle est une des propriétaires capitales.
C'est l'héritière de Hoffman La Roche.
Voilà, Hoffman La Roche. Et donc Maya Hoffman a bâti, dans Arles, hein, c'est pas tout à fait au cœur d'Arles, mais dans Arles, une tour à l'aspect assez particulier. C'est Frank Gehry, l'architecte qui l'a bâti. Alors on ne peut pas la louper parce qu'on n'est pas du tout dans le style arlésien. J'imagine que ça a fait couler beaucoup d'encre, au moins sur l'aspect, on va dire, esthétique de la chose. Quel est votre avis, Marie? Comment vous la trouvez, cette tour?
Alors, je m'y suis habituée, mais c'est vrai qu'au début, ça choquait, mais parce que ça sortait effectivement de l'architecture, ça surprenait en fait. Puis là, je m'y suis habituée, et comme a dit Maya, c'est un phare. Voilà,
c'est un phare. Éric Bézati, il y a un article très long, puis une interview que vous avez faite avec Maya Hoffman, d'ailleurs, dont les questions étaient précises, les réponses de Maya Hoffman sont beaucoup plus, si vous me permettez, fumeuses, me semble-t-il. On reste un peu sur sa fin. Quelle était son intention? Quelle est son intention en bâtissant cette chose?
Je ne fais pas de psychologie, donc je ne sais pas vraiment quelle est son intention. Au niveau de l'architecture, c'est des sensibilités, alors moi je ne vais pas me prononcer là-dessus. En revanche, ce qu'elle fait factuellement sur Arles, c'est qu'elle a créé une industrie autour du tourisme, de l'hôtel, de la restauration et d'exposition. Voilà ce qu'elle fait. Elle a créé des lieux où on mange, des lieux où on dort et des lieux où on expose. Et ça, c'est une nouvelle industrie. Je crois qu'on embauche 300 à 400 personnes sur Arles.
C'est quand même pas mal. Donc, sur le plan,
les anciens ateliers SNCF, ça a embauché 1100 personnes. Là, on a quelque chose. C'est l'industrie, pour moi, du 21e siècle. Donc, l'industrie du tourisme de masse ou du tourisme haut de gamme, parce que c'est quand même des établissements haut de gamme qu'elle a fait. Après, voilà, elle se fait plaisir. Elle est dans le monde de l'art contemporain, elle est dans le monde des milliardaires. Et c'est pour ça aussi que on se comprend pas, on parle pas le même langage.
C'est un peu un choc des cultures, parce que quand on connaît Arles, la population d'Arles et sa culture, ce que amène ici Maya Hoffmann, et qui est par ailleurs parfaitement respectable, on n'est pas du tout dans le même milieu. Et pas du tout.
Voilà, il y a quelques ponts qui s'établissent quand même, notamment sur le... Par exemple, elle, quand elle va en Camargue, elle fait du riz bio, elle fait un resto avec un jardin de tâches à saignettes. Enfin bon, bref, il y a des ponts quand même, des choses qui se font. Luma fait quand même des choses avec les écoles arlésiennes. Il y a des événements qui attirent la population arlésienne. Par contre, ce que je lui reproche fondamentalement, et c'est son discours sur « je le fais pour Arles ». Et moi, j'ai envie qu'on arrête avec ça, parce que j'ai l'impression qu'elle se sert aussi d'Arles pour poser son projet. Et il y a quelques années, dans une interview, elle disait « Moi, je veux internationaliser la ville d'Arles, la placer sur la carte de l'art contemporain mondial. » Mais ça, elle n'a pas demandé aux Arlésiens. Et les conséquences, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la gentrification. Les conséquences, c'est que les galeries pullulent. Les conséquences, c'est qu'on n'arrive plus à se loger. Et donc ça, par contre, elle n'assume pas. Donc quand on entend que Maya Hoffmann fait ça pour la ville d'Arles, pour une certaine vision qu'elle a de la ville, et ça n'a pas été voté démocratiquement. Donc moi j'ai envie que la Fondation Luma arrête avec le discours « on fait ça pour Arles ». Vous faites ça pour vous, vous faites ce que vous faites, mais arrêtez de nous vendre des sornettes. Et parce qu'en fait, ce qui est embêtant, c'est que la philanthropie aujourd'hui se part de bonnes intentions. Oh, c'est bon, vous êtes juste des héritiers de la bourgeoisie industrielle, vous avez des milliards, vous vous faites plaisir en montant dans l'art contemporain, vous achetez des hôtels, maintenant on va pas vous dire merci, quoi. Maintenant, si vous voulez vraiment le bien dans la ville, vous faites un budget participatif et les Arlésiens votent. Si tu veux faire le bien dans le monde, tu enlèves tes brevets sur tes médicaments. Voilà, et on arrête avec ce discours, il faudrait l'applaudir. Non, vous faites quelque chose qui est respectable, mais on ne va pas dire merci.
Elle a créé une industrie dans la ville qui va drainer quand même de l'économie, qui va drainer du tourisme, qui va permettre, vous l'avez dit, l'embauche de 400 personnes et peut-être plus ultérieurement. Donc de ce côté-là,
c'est ce que j'ai dit.
C'est l'aspect positif.
Ce que j'ai dit en préambule, c'est que ça, voilà ce qu'elle fait. Elle fait de l'emploi. Et ça, on ne peut pas lui enlever. C'est juste après le discours qui va avec.
Ce qui est peut-être gênant, c'est le déséquilibre qu'elle peut créer au niveau de la ville. Arles est une petite ville quand même, ou une ville moyenne, on va dire. Et cette fondation est énorme, considérable, avec de très gros moyens financiers. Donc elle va créer un déséquilibre.
Un exemple concret. Et là, vraiment, on est sur le week-end prochain. Donc le week-end prochain, il y a un événement qui s'appelle l'été indien. Toutes les galeries, tous les lieux un peu culturels de la ville participent à cette programmation. Eux, on va avoir de la musique à côté.
On va avoir de la musique.
Et Luma, ils ont pondu une programmation en 3 semaines. Ils font un événement hyper gros. Ils font venir un événement qui s'appelle We Love Green aux ateliers SNCF. Ils demandent à aucun acteur arlésien si ça contredit la programmation qui existait à Arles. Ils ont le pognon, donc ils vont chercher un partenariat avec des Parisiens qui d'une organisation très connue au niveau de l'électro qui s'appelle We Love Green. Ils font un concert à grand moyen à l'atelier des Forges, mais enfin, pourquoi et tous les acteurs arlésiens, ils essayent de pas se programmer des événements le même week-end, quoi. Mais eux, ils en ont rien à cirer, ils font leur truc et puis après on doit... Bon. Voilà ce qu'on peut regretter après. Voir Amaya, comme il faut le dire.
Après, la famille Hoffmann a également créé la fondation Van Gogh ici, mais c'est beaucoup plus ancien, qui est une belle fondation.
Oui.
C'était son père, je crois, c'est ça.
C'était son père, ouais. Il y a aussi la Tour du Valat.
Tour du Valat, c'est un institut de recherche privé qui travaille sur l'environnement de la Camargue, c'est ça, sur les flamants roses, sur les...
Non, alors du coup, c'est vrai que c'est le... quand le père Hoffman est arrivé dans la ville d'Arles, dans les années 50-60, je ne sais plus trop, il rachète beaucoup de terrain et il crée le conservatoire de la Tour du Valat, qui est un conservatoire pour les centres de recherche et de protection de l'environnement sur les zones humides où il y a des oiseaux qui sont protégés. Enfin non, mais là du coup, ils ont œuvré à la protection de la nature.
Actes Sud, qui est un acteur majeur qu'on connaît nationalement, d'autant plus que la fille de son fondateur a été ministre de la Culture du président Macron. Actes Sud, ici, c'est important, c'est quelque chose qui marque la ville.
Il y a une centaine d'emplois. Après, quand vous allez nous poser des questions, nous, on arrive toujours à voir ce qui est contradictoire entre leur discours et ceux qui se font passer pour et leurs actions. Mais pour le dire vite, quand même, Actes Sud, c'est un contexte culturel sur les bords du Rhône qui a de la gueule, quoi. Il y a une librairie, un hammam, un cinéma, une maison d'édition, une salle de spectacle avec le Méjean qui propose des choses quand même assez sympa, je sais pas si...
Accessible aussi, oui.
Mais on va avoir un peu un accompagnement musical en fond, mais c'est le... c'est les joies du marché, donc...
Par exemple, Marie était en train de dire que voilà, le Méjean, c'est quand même quelque chose.
C'est accessible.
Oui. Oui. Marie, vous confirmez?
Oui, je dis que c'est accessible aux Arlésiens.
Alors, il y a une autre institution. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un toïcographologue?
Eh bien non.
Vous savez pas, bon, moi je ne le savais pas non plus, je l'ai appris très récemment hier pour être clair. C'est un spécialiste des peintures romaines parce que vous avez ici un musée qui s'appelle le musée départemental art antique où il y a, qui mérite une visite, et c'est une ville romaine Arles, et très ancienne. Alors le toïcographologue va travailler sur des 800 caisses de fragments de fresques de type pompéien, puisqu'on a retrouvé une maison qui préexistait à la fondation d'Arles, et ils vont essayer de reconstituer, effectivement, je vous laisse l'article du Monde, vous y reviendrez. Alors ce musée départemental romain, finalement, il doit drainer beaucoup, beaucoup de monde, il est très riche en collection. Oui. Et notamment une barque reconstituée.
Le chaland gallo-romain qui a été remonté du Rhône, c'était quoi, en 2000, l'expo inaugurale, je crois que c'est 2009. Enfin, bon, ouais, à ce moment-là, quand ils ont remonté le chaland gallo-romain, ils ont remonté aussi une statue qui a été attribuée à Jules, enfin, c'était un buste de Jules César. Et donc là, à ce moment-là, il y a eu une extension construite au musée de l'art antique. Et effectivement, moi, en tout cas, j'adore aller dans ce musée-là parce qu'il y a plein de maquettes. Et on voit comment les Romains vivaient dans des petites maquettes. Et du coup, c'est vrai qu'à Trinquetaille, sur le site de la Verrerie, ils ont trouvé une maison pompéienne. Voilà, donc c'est rigolo pour ceux qui aiment.
Oui, c'est plus que rigolo, c'est très instructif, et le bâtiment est magnifique, et la scène muséographique est très bien faite. Marie, vous tout y allez, fait. Vous
oui,
le visitez,
bien
vous,
sûr.
Êtes,
oui, oui.
Vous êtes une habituée.
Une habituée, non, mais j'ai pu y aller, et c'est vrai que on passe des bons moments, et c'est, comme vous dites, très instructif, oui.
On a parlé de ce musée parce que beaucoup de d'antiquités ont été retrouvées dans le Rhône, donc le Rhône qui irrigue Arles. Est-ce que la ville vit avec son fleuve ou est-ce qu'elle lui tourne un peu le dos, comme par exemple à Toulouse, la Garonne traverse Toulouse, mais très clairement, Toulouse tourne le dos à son fleuve. Est-ce que c'est le cas du Rhône ici ou est-ce que vraiment on vit aussi avec le Rhône et sur le Rhône?
Il y a les deux. Alors en tout cas, je sais que c'est un lieu de convivialité. Les quais ont été refaits il y a quelques années. C'est un lieu de convivialité. Le soir, on va boire des coups là-bas. L'après-midi, on y fait du jogging. Les couchers de soleil sont magnifiques. C'est vraiment un lieu de promenade. Après, il n'y a pas de péniche, par exemple. Il n'y a pas de restaurant. Si,
il y a
une péniche, mais qui est tout le temps fermée. À côté de Trinquetaille, oui. Et il y a les croisiéristes qui arrivent vers la gare là et qui des Allemands, des gens qui viennent en grosse péniche, qui font des séjours très courts à Arles.
Beaucoup d'Italiens.
Des Italiens?
Ah oui, il y a toujours eu beaucoup d'Italiens ici, oui. Même surtout au Sainte-Marie-de-la-Mer, qui ne sont pas très loin de nous. y a énormément de plaques italiennes. Et depuis toujours, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a cette dilection des Italiens pour la Camargue, mais ils ont aussi une Camargue. Hein,
peut-être chez pour eux, le côté latin de la ville.
Peut-être aussi, oui, tout à fait. Ils sont un peu chez eux, finalement, puisqu'ils nous avaient envahis il y a quelques siècles.
Hein. C'est ça. Et puis, on dit souvent de Rome qu'elle est la petite Arles de la péninsule.
Oui, 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 voilà, on peut le dire comme ça. Alors, la Camargue, ben, Arles et la Camargue sont indissociablement liées. La Camargue, c'est un milieu très compliqué, c'est un milieu très naturel mais très artificiel puisque finalement ce n'était que des marais insalubres qui ont été asséchés sur lesquels est venue se greffer une population d'éleveurs essentiellement de taureaux, hein, de taureaux camarguais, de vaches camarguaises. Il y a le riz, il y a eu la vigne à une époque, je ne sais pas s'il y en a toujours. Les riziculteurs, j'ai fait d'ailleurs une émission ici avec le président qui est maintenant le président européen des viticulteurs, Bertrand Mazel.
Les riziculteurs.
Voilà, il y a les riziculteurs, il y a le parc naturel, il y a les écologistes, il y a de l'eau douce et de l'eau salée, il y a l'eau qui monte aussi puisque le réchauffement climatique fera que si ça continue, ça va continuer, un jour ou l'autre la Camargue n'existera plus. Alors quelle vision vous avez, Marie, de cette Camargue qui est très protéiforme et avec, on sent qu'il y a des tensions aussi entre ces différentes populations qui ont du mal à coexister.
Moi, c'est le côté sauvage. C'est le côté sauvage que j'aime en Camargue.
Les oiseaux, la faune, la biodiversité.
Voilà, absolument, absolument.
Éric, vous traitez de la Camargue dans l'Arlésienne ou vous cantonnez à la ville?
Effectivement, oui, oui. Alors nous, comme d'habitude dans l'Arlésienne, on y va par le spectre des conflits qui peuvent s'y dérouler. Et donc il y a des visions de la vie qui s'opposent en Camargue, notamment quand les protecteurs de l'environnement disent bon, mais maintenant il faut arrêter de construire des digues où la mer va taper et vont être détruites tous les 5 ans, il va falloir mettre beaucoup de moyens pour mettre les digues. Il faut donner de la mobilité au trait de côte. Et les autochtones, on va dire, les gens qui, depuis des générations, construisent les digues pour protéger leur... notamment, là, je parle de Salène de Giraud, pour protéger leur maison, etc. Ils se disent, non, mais attendez, on va laisser rentrer la mer en Camargue, faire rentrer le sel, c'est la mort, alors que les écolos disent, mais oui, mais la nature, faut lui redonner de la place, etc. Donc ça, il y a des très gros enjeux et des conflits autour de la gestion de l'eau. À quel moment on ouvre les vannes du Rhône pour adoucir la Camargue? À quel moment on laisse rentrer la mer dans le Vacarès? Enfin, voilà.
Il y a aussi un autre problème, et je vais vous renvoyer d'ailleurs un article du Monde qui est sorti cette semaine et que je vais vous laisser. C'est le problème des rejets, parce que les riziculteurs mettent quand même quelques produits qui aujourd'hui sont politiquement très incorrects, et il semblerait que la saturation de ces produits ait provoqué la disparition des herbiers de Zosternen, qui était considéré comme l'un des plus beaux dans le pourtour méditerranéen aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est de cette pollution agricole?
Il y a eu un procès là, il y a 6 mois sur justement les rejets de pesticides, dont beaucoup interdits. En Camargue, notamment par le canal de Fume Morte qui porte bien son nom. Et donc du coup, on trouve des traces de pesticides interdits en France mais autorisés en Espagne, dans les canaux qui sortent des rizières. Et donc effectivement, là encore, il y a des bastons entre les riziculteurs et les protecteurs de l'environnement, quoi.
Oui, et donc comment ça va se régler, cette histoire?
Oh, mais ça va pas se régler, hein. Donc ça va... J'ai écrit un article sur cette question-là il y a 5 ans, et c'est toujours la même question. Après, voilà, les riziculteurs, ils sont toujours dans ce qu'ils appellent des impasses techniques, c'est-à-dire qu'à force de mettre des pesticides, les mauvaises herbes s'habituent aux pesticides, et donc du coup, il faut toujours changer, aller plus loin, aller plus dur. Et donc du coup, la réglementation française est quand même une des plus restrictives européennes. Donc ils sont tentés parfois d'aller chercher des barils de pesticides autorisés en Espagne ou en Italie pour sauver leur récolte. Et du coup, ça fait des conflits, quoi.
Je vous remets l'article du Monde, vous le lirez si vous ne l'aviez pas lu, mais c'est un problème qui est récurrent, qui revient. À côté de l'agriculture, est-ce qu'il y a des industries ici, plutôt du service?
T'as le sel à Salins.
Oui, alors les Salins Girôme et aussi ils sont pas basés au Salins Girôme.
Ils sont basés au Salins, ouais.
Salins Girôme qui est une ville assez curieuse quand on la voit, c'est on a l'impression d'arriver ailleurs dans un autre monde.
Dans les corons du Nord.
Oui, c'est les carottes,
c'est
les corons du Nord.
Construite par des industriels, Péchiné et Solvay.
Il y a toujours une activité industrielle.
Très peu. Maintenant, c'est cassé la gueule. Il y a toujours une une usine qui utilise la soude, je crois, pour faire. Alors ça, je suis pas spécialiste, hein, mais il y a toujours les Salins qui sont passés de centaines d'employés. Aujourd'hui, il y en a 30, quoi.
Alors, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres les villes proches, par exemple la ville de Nîmes qui n'est pas si loin? Est-ce qu'il y a une rivalité? Est-ce qu'il y a une complémentarité? Ou est-ce qu'on ne se parle pas? Ce sont deux univers différents.
Ce qu'on a oublié là dans l'industrie qui se développe à Arles, il y a quand même l'intérim dans la logistique. On a Amazon à côté, on a une zone logistique qui est l'arrière-port de Fos-sur-Mer. Donc il y a beaucoup d'entrepôts.
Fos-sur-Mer, c'est énorme.
Voilà, je crois que c'est le deuxième port
français. Vraisemblablement extrêmement polluant.
Et puis surtout, bon, voilà, ça fait des emplois liés à la mondialisation directe, quoi. C'est-à-dire, on fait venir des produits d'ailleurs, on embauche des emplois précaires pour mettre dans les camions, sortir les camions, rentrer dans les camions. Et voilà, c'est des emplois. Souvent, c'est présenté comme la solution du territoire pour créer de l'emploi. Sauf que c'est des emplois sous-qualifiés, sous-payés, qui cassent le dos. Bref, là aussi, on a fait une enquête sur Amazon et les conditions de travail là-bas. C'est terrible, quoi.
Et Marseille, qui est le grand pôle, est-ce qu'il y a des rapports? On n'est plus ici dans la région Occitanie. Hein.
Arles, c'est quand même, une espèce de république indépendante, quoi. Après, effectivement, il y a le triangle Avignon-Nîmes-Arles, d'ailleurs, qui on peut aller faire des courses à Avignon, on peut aller sortir à Nîmes, mais je veux dire, à Arles, c'est quand même, il y a un petit côté autour, quand même. Quand on aille à Nîmes, quand on aille à Avignon, quand on aille vers Marseille, il y a toujours 30 km de No Man's Land, en fait, avec que des petits villages, etc. quoi. Arles, c'est... Et en ça, c'est particulier, quoi. Je sais pas, alors là, du coup, vous avez peut-être votre avis tous autour de la table sur...
Pierre-Alexandre ?
Ben, pour le coup, je suis bien placé parce que j'habite à côté de Nîmes. Donc, c'est vrai que pour la prendre tous les jours, cette route-là, je prends la nationale. C'est, tu disais justement Eric, c'est un peu no man's land dans le sens où si on fait Nîmes-Arles par national, il y a un village, c'est Bellegarde. Après on passe à côté de Garon, on passe à côté de Bouillargues, je crois.
Ouais, Bouillargues.
Mais on ne fait que traverser sur le côté et donc du coup oui effectivement il y a cette espèce de grande plaine de Nîmes à Arles où il y a rien. Donc Arles, c'est une ville campagnarde, hein, pour essayer de résumer.
Quoi.
Oui, c'est un grand village, oui, c'est une petite ville un peu campagnarde. C'est un peu le charme, c'est beaucoup le charme de cette ville en fait.
C'est un carrefour, j'ai l'impression que c'est un carrefour en fait. Mais Marseille, c'est un autre monde en fait pour Arles.
Oui, on a l'impression que vraiment...
Voilà, c'est...
Les problèmes, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité dans Arles? Est-ce qu'il y a des problèmes de stupéfiants? Alors, il n'y a pas les cités qu'il y a à Marseille, mais est-ce que ça existe?
Il y a les mêmes cités, il y a les mêmes problèmes.
Avec une échelle peut-être moindre, mais...
Non, là, c'est pareil. Non. Vraiment, c'est pareil. Il y a eu des règlements de compte, ça a tiré à balles réelles sur les flics. En fait, c'est aussi tout le réseau marseillais qui va jusqu'à Arles. En ce moment, à Bariolles, c'est des équipes de Marseille qui... pour la loi.
Bariolles,
Beaucaire, ça a toujours été Beaucaire, Tarascon, ça a toujours été des plates tournantes d'échanges de bon, bref, non, c'est pareil partout.
Ici, vous êtes quand même impacté par l'insécurité marseillaise que l'on connaît, puisque le président est allé lui donner un peu de publicité, sans peut-être vraiment apporter de solution, mais le problème est tellement complexe et ancien que...
Le problème est très complexe vous l'avez compris, hein, j'ai pas l'impression que c'est avec des caméras et de...
Mais non, mais la caméra, on sait que c'est un argument électoral. On sait pratiquement, voilà. Il y a eu des études universitaires là-dessus.
Ce qui me fait délirer, c'est que dans le contrat de sécurité intégré que Darmanin est venu signer avec Patrick de Carolis fin août à Arles, on nous met des caméras, on nous met des flics, et par contre, on nous met zéro sur augmentation des aides aux subventions aux associations sportives. On nous met zéro sur les éducateurs spécialisés de prévention. On nous met zéro sur l'aide aux devoirs. Et bon, au bout d'un moment, moi je trouve ça hyper caricatural de dire on va régler les choses en mettant des caméras et des flics. Quoi. Peut-être traiter la source du problème.
D'autant plus que
Pierre-Alexandre,
pour essayer de rebondir un peu sur ce que tu dis, Eric. C'est que Arles connaît aujourd'hui le problème qu'ont connu beaucoup de villes il y a 20 ans. Donc en fait, nous avons le recul ici pour voir ce qui a été fait et ce qui a pu marcher et ce qui a pu ne pas marcher. Donc sortir des arguments en disant on va essayer, aujourd'hui ça ne peut plus passer avec l'historique de beaucoup d'autres villes qui ont connu ça des années en arrière. Nous avons le recul nécessaire pour pouvoir agir efficacement et je pense que parfois les municipalités se mettent un petit peu des œillères justement pour sortir, comme tu le disais, des arguments électoraux, sauf qu'aujourd'hui, on est à 5 ans d'élections municipales.
Ça sert à rien.
Il n'y a pas besoin de sortir d'arguments électoraux, il faut avancer plus intelligemment, je pense.
Après, ça fonctionne, hein, les arguments. Enfin, et combien de personnes à Arles Arles est sociologiquement 50-50 gauche-droite, mais vraiment, pour les caméras, il y a beaucoup de personnes qui sont très satisfaites de la politique municipale de rajouter des caméras. Il n'y a pas de souci, ça marche, ça rassure. En fait, voilà, faut...
Oui, on sait qu'en termes de sécurité publique, ça n'a aucune efficacité. Mais
ça déplace les problèmes.
Oui, ça déplace le problème. Et puis, ce qu'il faut faire, c'est de la police sur le terrain, de la prévention, essentiellement, parce qu'une fois que le délit est commis, ça met en branle toute la machine judiciaire, policière, etc. Ça coûte un bras à l'État. Et ce n'est pas forcément ça vers le quoi il faut aller. Nous sommes au terme de cette émission. Le concert continue à côté de nous, donc on va s'interrompre. Au final, quand même, conclusion, il fait bon vivre Arles.
Mais
hein,
oui,
mais
oui. Alors, il faut quand même dire que c'est des problèmes de riches qu'on a. Quand on dit... bon, bref, Arles, Arles, c'est quand même... Il y a un dynamisme et des forces en jeu qu'il faut pouvoir critiquer, mais on a de la chance que les choses se passent, parce que sinon, Arles, s'il n'y a que le chômage et pas des milliardaires, ça devient des villes comme Perpignan, comme Béziers, et ça, s'il n'y a que... on se plaint de choses, on les critique, mais au moins il y a des choses à critiquer, il y a des choses dont on se plaint.
On y vit,
on y est bien, voilà. Donc venez à Arles, venez voir la Camargue.
N'achetez pas.
Merci à tous les trois, merci à Pierre-Alexandre de la Brière et à Patrick Sompère qui nous ont accueillis sur la terrasse. Merci. Eric Bezati de l'Arlésienne, vous avez un site web.
L'Arlésienne.info, vous pouvez acheter le numéro 10 sur Amazon, le numéro 12 sur MyHoffman.
Allez lire l'Arlésienne parce que ça vous donnera véritablement une idée de la ville. C'est du journalisme, c'est fouillé. Marie, merci. Je rappelle votre livre, c'était écrit quelque part chez Nombreux 7. Marie Garcia, merci à tous les trois. Et puis peut-être à bientôt autour de cette table pour continuer un jour à reparler d'Arles qui bouge énormément, énormément. Peut-être que dans un an, on aura autant de choses à dire qu'on en a dit aujourd'hui. Merci à tous les trois.
Merci à vous.